OK, certains, c'est les mêmes personnes, d'autres, ce sont d'autres personnes. Ça arrive que l'année soit une bonne année et en même temps une année de défi. Et on a des années comme ça. Certaines années sont des années de défi, certaines années sont des années qu'on dit « Wow, ça a été une bonne année ». Qu'importe comment a été votre année 2019, devinez quoi? Il y a un nouveau chapitre qui vient de commencer. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il y a un nouveau chapitre qui vient de commencer. Et je crois que l'année 2020 va apporter une nouvelle dimension à notre relation avec Dieu. Je le crois réellement. Je crois que Dieu désire amener notre foi à un niveau qu'on n'a jamais expérimenté auparavant. Puis je crois qu'il y a une chose que Dieu valorise réellement, c'est la foi, c'est-à-dire notre confiance en lui. La foi, souvent, est focussée sur un élément qu'on veut voir arriver. Mais la foi est surtout la confiance et l'assurance de ce qu'il est. Ça, c'est réellement la foi. Et c'est une chose que Dieu valorise énormément, je crois. C'est ce qu'il est. Il est infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Et Dieu désire qu'on puisse ajouter foi à cela et participer et collaborer avec lui dans ce sens-là. J'ai éloigné un petit peu mon micro. J'aimerais qu'on commence l'année en lui exprimant premièrement notre dévotion à nouveau. J'aimerais qu'on puisse lire un passage. Vous connaissez le passage « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur », Proverbes chapitre 3. J'aimerais qu'on lise dans la version de la Passion, que j'ai traduit en français, qu'on puisse le lire et qu'on puisse dire en début d'année, « Seigneur, c'est toi que je choisis ». J'aimerais qu'on puisse le lire à haute voix, si vous voulez bien. C'est un peu différent, donc on va lire lentement. « Fais entièrement confiance au Seigneur et ne compte pas sur tes propres opinions. » De tout ton cœur, compte sur lui pour te guider et il te dirigera dans chaque décision que tu prendras. Deviens intime avec lui dans tout ce que tu fais et il te conduira partout où tu iras. Ne pense pas un instant que tu sais tout, car la sagesse vient quand tu l'adores d'une dévotion sans partage et évite tout ce qui est mal. Ensuite, tu trouveras le rafraîchissement de la guérison auquel ton corps et ton esprit aspirent. Glorifie Dieu avec toutes tes richesses, honore-le de ton mieux à chaque enrichissement que tu reçois. Ensuite, chaque dimension de ta vie débordera de bénédictions provenant d'une source de joie intérieure irrépressible, qu'on ne peut pas tarir. Amen. Prions un instant. Père éternel, on veut placer ce matin notre confiance en toi. On veut réitérer notre engagement. Seigneur, c'est toi que nous voulons ce matin. C'est toi que nous voulons suivre en 2020. Alors, Seigneur Dieu, nous voulons que tu sois dans nos décisions. Nous voulons que tu sois dans nos moments de repos, dans nos moments de réflexion. Nous voulons que tu sois présent aussi dans nos moments de douleur, dans nos moments de découragement, tout comme dans nos moments de joie, dans nos moments d'exclamation, dans nos moments de passion. Nous voulons que tu sois dans notre vie en 2020, Père éternel. Et Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre foi. Alors Seigneur, conduis-nous ce matin. Je prie que ton Saint-Esprit prenne les paroles que je vais prononcer et les interprète pour chacun de nous, selon chacun de nous, nos besoins, notre cheminement dans tes voies. Et Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde maintenant un avertissement qui est assez étonnant de l'apôtre Paul. Le Seigneur m'a beaucoup travaillé, comme je disais, dans ces dernières semaines. Et c'est ce qui a fait que j'ai apporté ce message, « Dieu a besoin de toi ». Si vous n'étiez pas là, allez sur le site de l'Église, vous pourrez l'écouter. « Dieu a besoin de toi » ou « Dieu a besoin de moi ». Et à quel point nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et suite à ces messages, le Saint-Esprit m'a pressé encore plus pour m'emmener plus loin dans ma compréhension, que c'était encore plus que ça, que c'était dans son plan divin, notre collaboration avec lui. Mais il y a un avertissement, je crois, qu'on a besoin. On va commencer avec un avertissement. Et c'est un avertissement qui est très différent des autres. C'est pas « ne péchez pas », « faites attention à ceci », « fuyez cela ». L'avertissement est « recevez vraiment ». Et voici ce passage-là, on le retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 6, au premier verset. Et Paul, ici, dans la version second 21, on va regarder en rafale plusieurs versions. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. » Dans la Louis II, « Nous vous en supplions. » L'apôtre Paul supplie ici des croyants de recevoir une grâce qui va porter du fruit, de la recevoir de la bonne manière. Et si on continue dans la version de la Passion, « Puisque nous sommes les collaborateurs de Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu, second 21, puisque nous sommes les collaborateurs de Dieu, nous vous prions de ne pas tenir la merveilleuse grâce de Dieu pour acquise, car cela n'aura aucun effet sur votre vie. » Dans la version New Living Translation, traduit en français, « En tant que partenaire de Dieu, nous vous prions de ne pas accepter ce merveilleux cadeau de la bonté de Dieu et de l'ignorer. » Et dans la version Bible en français courant, « Puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. » C'est vraiment intéressant. Et l'apôtre Paul lui-même, plus tard, même pas plus tard, précédemment dans la première épître aux Corinthiens, lui-même dit, « Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. » Lorsqu'il parle aux Corinthiens, « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Et Paul avait cette conscience-là d'être ouvrier avec Dieu. Et ailleurs même, il mentionne encore dans Corinthiens, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Cette grâce-là, elle n'a pas été vaine envers moi. » C'est-à-dire, encore une fois, Paul ramène dans ce passage-là à quel point il a été conscient de la grâce de Dieu et cette grâce-là, il a surfé dessus, ça l'a amené beaucoup plus loin. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un avertissement et l'avertissement est concernant notre comportement qui va affecter la manifestation de sa grâce. Et comment il le dit? Donc, ici, on ne parle pas de ne pas pécher, on parle de recevoir. C'est comme si l'apôtre Paul dit « Hey, réalisez! » avec une plus grande conscience ce que Dieu a accompli et cette grâce-là, afin qu'elle produise quelque chose, qu'elle ne soit pas sans effet. Et l'avertissement, c'est « nous vous en supplions, nous vous prions », et l'avertissement est concernant de négliger, d'ignorer, de prendre pour acquis. Et l'avertissement, c'est parce que ce que l'apôtre Paul veut, il ne veut pas que, comme résultat, la grâce soit sans résultat, sans effet ou en vain, dans la version Louis II, que cette grâce-là a été reçue en vain. Donc, c'est vraiment, vraiment important parce que l'apôtre Paul ici est en train de parler d'une chose. Dieu a tout accompli. Mais nous pouvons complètement annihiler, si je peux dire, ce que Dieu a accompli dans un sens en ne le recevant pas. Ici, l'apôtre Paul parle à des croyants. Il ne parle pas à des inconvertis parce que très souvent, on associe la grâce de Dieu au salut. Et c'est beaucoup plus que ça. Et vous savez, prendre pour acquis, comme ça mentionnait tout à l'heure, de ne pas prendre la grâce de Dieu pour acquis, prendre pour acquis, le sens du dictionnaire, c'est penser que quelque chose, qu'une chose nous est attribuée de façon ferme et définitive. C'est-à-dire, on ne tient pas compte sans qu'on ait rien à faire. On ne tient pas compte qu'on a une responsabilité à jouer, on a un rôle à jouer. Et ici, c'est comme si l'apôtre Paul nous disait, je vous en supplie, recevez la grâce de Dieu pour qu'elle puisse porter du fruit. Pourquoi une telle insistance? Paul supplie, il prie, il demande avec insistance. Pourquoi? Parce que Paul, je crois qu'il est conscient que Dieu a tout, absolument tout accompli. Dieu a vraiment, vraiment, vraiment tout accompli. Il n'y a rien à ajouter à ce niveau-là. Mais il n'en tient qu'à nous de le recevoir. Dieu a absolument tout accompli, mais en même temps, tout dépend de nous. Et il n'en tient qu'à nous de le recevoir. Et trop souvent, on a minimisé ce rôle-là qu'on avait à jouer. On l'a attribué au salut. J'ai reçu Jésus dans ma vie, je suis sauvé, merci. Je me souviens d'un frère qui donnait son témoignage à l'époque à l'église où j'étais. Ça faisait 30 ans qu'il était chrétien. Et son témoignage, semaine après semaine, c'était « Je remercie le Seigneur, il m'a sauvé, baptisé de son Saint-Esprit il y a tant d'années. Amen. » Et moi, j'étais assis dans mon banc, jeune croyant, je me disais « Et depuis 30 ans, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? » C'est la question que moi, je me posais. Parce que cette grâce-là elle est vivante et dynamique et elle doit produire quelque chose à tous les jours. À tous les jours. Donc, Dieu a vraiment tout accompli, mais il n'en tient qu'à nous de recevoir. Et ce que Dieu a accompli est infiniment plus grand que ce que l'on peut comprendre. Mais notre responsabilité, je crois qu'elle est beaucoup plus grande que ce que l'on croit dans la réception de sa grâce ou dans cette collaboration avec Dieu. Et c'est vraiment à cet endroit-là que Dieu a vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment, je ne sais pas comment dire, touché. J'ai senti que Dieu voulait m'amener réellement plus loin, nous emmener plus loin en réalité. Je ne peux pas dire « je dis « nous » parce qu'on est ensemble. Et Dieu m'a donné cette responsabilité de vous communiquer des choses et ça, ça fait partie de ce que Dieu désire que je vous communique. Ton rôle dans ta relation avec Dieu est beaucoup plus important que tu pensais. Ou Dieu valorise beaucoup plus que tu ne le crois ton rôle dans cette relation avec lui. Et trop souvent, nous, on est humains. Donc, tu t'imagines, c'est pour ça que nos amitiés, en général, sont des amitiés avec des gens qui nous ressemblent, qui ont des affinités. OK? Il faut qu'il y ait des affinités pour qu'il y ait une amitié qui se développe. Et ce qui fait que je ne serai pas nécessairement ami avec le premier ministre du Canada si on n'a pas d'affinité ensemble. Et même, je peux regarder comme une amitié probable avec le premier ministre du Canada, des États-Unis ou qu'importe, avec qu'importe la personne qui peut être haut placée dans le leadership mondial, comme étant, je peux considérer ça comme étant tout à fait improbable parce que je vois le décalage. Moi, je suis juste un simple pasteur d'une petite église ici à Ville-la-Salle. Qui suis-je pour être ami avec un tel? Et souvent, on a comparé notre relation avec Dieu. Dieu est infiniment grand, moi, je suis rien. Et c'est ce qu'on pense. Donc, comment est-ce que je pourrais avoir une relation d'égal à égal avec un être infini alors que je suis fini? Et c'est là notre problème. On raisonne trop des fois. Dieu nous invite à cette relation. Même si on la trouve bizarre, on dit « Quoi? Toi, t'as tout, puis tu veux être en relation égal à égal? » C'est à peu près comme... tu as un plan d'affaires, tu as inventé quelque chose que tu veux mettre sur le marché. Tu te cherches des collaborateurs et tu dis, il faut que je trouve du financement. Et là, tu fais tout, comment je vais trouver du financement? Et tu trouves un collaborateur qui dit, pas de problème, moi, je vais mettre 100 millions là-dedans, puis non, on ne met rien. Puis on sépare les profits 50-50. Que dirais-tu d'une telle collaboration? Je viens d'entendre, waouh! Dieu l'infini te dit, on va collaborer ensemble et on partage tout. Et là, on dit, non, c'est trop beau pour être vrai. Parce que dans ce monde, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et on compare Dieu avec la réalité de ce monde. Dieu est infiniment grand et il valorise infiniment la relation qu'il désire qu'on ait avec lui et la collaboration qu'il nous invite à avoir avec lui. Et Dieu a vraiment attiré mon attention sur ce point-là. Vous vous souvenez du passage que j'avais cité la semaine passée, probablement? Je vous avais cité Éphésiens 3:20. Qui est vraiment le passage, qui est mon passage thème pour ce matin, à celui, ici dans la version second 21, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. C'est un très beau verset, mais c'est juste la conclusion d'un paquet d'autres choses encore plus extraordinaires que Paul prie pour les Éphésiens. Tous les versets qui se précèdent sont encore des versets vraiment extraordinaires, mais ils complètent avec ce verset-là. Et qu'est-ce qui se passe ici à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment plus? Et nous pensons et nous demandons. Il y a comme, vous savez, il y a comme un décalage. Donc, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et qu'est-ce qui se passe, ou plutôt, qu'est-ce que ce passage-là implique ici? On voit une comparaison. Un ordre de grandeur ou de valeur. Waouh, Dieu qui est infini. Et nous qui nous demandons... Selon notre finalité à nous, nous sommes êtres humains vivant sur cette terre. Donc, on demande un peu comme, je peux pas oublier cette demande de prière. Lorsque j'ai fait mon voyage au Brésil pour faire du ministère avec le pasteur Randy Clark, le dernier soir, le dimanche soir, on terminait le 10 jours de tournée dans différentes églises et il y avait des gens qui nous accompagnaient comme interprètes parce que je parlais très peu portugais. Quelques mots et tout. Donc, on avait des interprètes avec nous. Et à la fin de la soirée, on a dit, OK, j'avais deux dames qui m'avaient accompagné ce soir-là. Allez chercher vos maris. J'aimerais prier pour eux aussi, en terminant. Et le mari d'une dame s'approche et je lui dis, qu'est-ce que tu désires que Dieu fasse pour toi? Et il me répond, j'aimerais ça que Dieu me bénisse juste un petit peu. Pas trop. Je pars à rire et la dame avec moi part à rire aussi parce qu'on avait vu toutes sortes de miracles, de guérisons. Et je lui dis, écoute, je ne connais pas ce Dieu-là. Désolé. Faudrait que tu agrandisses un peu ton espérance, ton attente, parce que Dieu me bénisse juste un tout petit peu, c'est presque un affront. C'est comme si tu dis à tes meilleurs amis, écoutez, quand vous viendrez à Montréal ou dans la région, venez dormir chez nous, il y a de la place. Et là, tu t'aperçois le soir en regardant par la fenêtre que ces gens-là, effectivement, sont venus à Montréal, ont sorti leur sleeping bag et les ont mis sur le gazon dehors pour dormir chez vous. Oui, ça fait bizarre, hein? C'est quoi? Je t'avais invité pour venir dormir chez moi, pas sur le gazon. Ah, ben, on ne voulait pas te déranger. On n'aime donc pas déranger Dieu. Ou on a donc de la difficulté à croire qu'il est vraiment bon, qu'il nous aime vraiment. Donc, Dieu infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. J'aimerais qu'on regarde dans la version de la Passion, Passion Translation. C'est intéressant parce que c'est comme une version moderne, donc beaucoup plus amplifiée. Et c'est intéressant de voir l'émotion qui se dégage aussi. Donc, et ce qui était intéressant que j'ai remarqué, c'est que ne doutez jamais de l'action de la grande puissance de Dieu en vous pour accomplir tout cela. Accomplir quoi? Ce qu'on va voir tantôt dans les versets qui avaient précédé, toute cette belle prière que l'apôtre Paul a faite. Mais il commence avec « Ne doutez jamais de l'action de la grande puissance de Dieu en vous pour accomplir tout cela. » Et il continue « Il accomplira infiniment plus que vos grandes demandes, ou que vos plus grandes demandes, que vos rêves les plus incroyables, et il dépassera même votre imagination la plus folle. Il les surpassera tous, car sa puissance miraculeuse vous dynamise constamment. » Parce que Dieu est là pour le manifester constamment. Wow! Ne doutez jamais. J'aime cette partie-là. Parce qu'ici, c'est simplement la conclusion de sa prière. Mais dans sa conclusion, Paul est vraiment conscient. Il va accomplir infiniment plus que vos plus grandes demandes, vos rêves les plus incroyables. Il dépassera même votre imagination la plus folle. Il les surpassera tous, car sa puissance miraculeuse vous dynamise constamment. Ne doutez jamais de quoi? Un exemple, ici on vient de lire le verset 20. On va regarder un peu plus tôt dans sa prière, le verset 16. Je n'ai pas tout mis parce que par souci de ne pas prendre trop de temps. Mais Éphésiens 3, 16, « Je prie qu'il dévoile en vous les richesses illimitées de sa gloire et de sa faveur, jusqu'à ce que sa force surnaturelle inonde votre être le plus profond de sa puissance divine. » Et le verset qui suit, il parle d'être enraciné, fondé dans l'amour, par la foi, à travers notre foi, notre réponse, notre collaboration. Ça permet à Christ de vivre en nous, d'être enraciné dans son amour, de comprendre la grandeur extravagante de son amour. Et il continue au verset 18-19. « Ensuite, vous serez en mesure de découvrir ce que chaque saint vit ou ce que chaque croyant est en mesure de vivre. La grande ampleur de l'étonnant amour de Christ dans toutes ses dimensions. » Louis II parle de hauteur, largeur, longueur, profondeur. Comme son amour est profondément intime et de grande envergure, comme il est durable et inclusif, l'amour sans fin, au-delà de la mesure qui dépasse notre compréhension. Je ne sais pas si j'avais terminé, si ça continue là, oui. Oui, il termine ici. Cet amour extravagant se déversera en vous jusqu'à ce que vous soyez rempli jusqu'à déborder de la plénitude de Dieu. Wow! C'est Paul qui l'a écrit. Si ce n'était pas Paul, j'aurais de la difficulté à croire, mais je suis obligé de le croire. C'est dans la parole. Et c'est pour nous. C'est dans le Nouveau Testament. Ça fait partie de ce que Paul a reçu comme révélation. Cet amour extravagant se déversera en vous jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à déborder de la plénitude de Dieu. Si Paul prie dans ce sens-là, c'est que c'est possible, c'est disponible. Vous savez pourquoi on se sanctifie? J'aimerais comparer la sanctification avec comment on se comporte quelquefois avec de jeunes enfants. À un enfant de 3 ans, on lui dit « Touche pas à ça, sinon je vais être fâché. » Ou « Traverse pas la rue, c'est vraiment dangereux, je vais te fâcher après toi, puis ça peut faire mal. » OK. On partage immédiatement avec le petit enfant quelque chose qu'il va comprendre dans sa mesure de compréhension. Mais je dois être honnête aujourd'hui, quand je traverse la rue, je n'ai pas peur que ma mère soit fâchée après moi. Quand je traverse la rue ou quand j'évite les voitures en traversant la rue, ce n'est pas seulement pour ne pas avoir mal, c'est que je veux vivre. Je veux vivre une vie où je vais voir ma destinée s'accomplir. Je veux vivre une vie où je vais voir mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je veux vivre une vie où je vais voir Dieu agir dans toutes sortes de situations. Je ne veux pas marcher avec un plâtre ou quoi que ce soit. Je ne veux pas vivre les résultats d'un accident quelconque. Je ne veux pas mourir. Mais plus que de ne pas vouloir mourir, c'est que je veux vivre. Et quand c'est un enfant de quelques années, on dit seulement les simplicités. Et le but de la sanctification, on a longtemps pensé, ah ben c'est parce que Dieu est saint. On ne peut pas rentrer dans sa présence si on n'est pas saint. Parce que ceci, parce que si on n'est pas saint, ben on ne peut pas aller au ciel. Et on s'est souvent arrêté aux premiers avertissements qu'on donnerait à un enfant. Traverse pas la rue, ça peut vraiment faire mal. Puis je vais être fâché après toi. En réalité, quand on lit ces passages-là, pourquoi est-ce qu'on sanctifie? Parce qu'on veut être rempli de la plénitude de Dieu. Parce qu'on veut penser comme lui. Parce qu'on veut que rien n'entrave notre relation avec lui. C'est la raison pour laquelle je me sanctifie, pour être transformé dans ma relation avec Dieu, être transformé à son image, être transformé de gloire en gloire, etc., etc., pour que je puisse être en mesure de saisir pleinement ce que Dieu me dit et de le croire du plus profond de mon cœur et d'ajouter foi. C'est la raison pour laquelle je m'en sanctifie. C'est la raison pour laquelle je veux qu'il n'y ait absolument rien qui vienne entraver ma relation, qui vienne fausser mon jugement, qui vienne fausser l'attachement de mon cœur. Je ne veux pas que mon cœur soit attaché à autre chose qu'à Dieu. Donc, je vais éviter tout ce qui est mal, comme on avait vu tantôt dans ce passage-là, et éviter ce qui est mal. Je trouve ça spécial que ce soit mis là, en plein milieu de ce passage-là, mais on se sanctifie pour ça. Donc, l'amour extravagant va être déversé en nous jusqu'à ce qu'on soit rempli, jusqu'à déborder de la plénitude de Dieu. Combien d'entre vous êtes déjà arrivés là? OK. Je ne vais pas lever ma main, c'était juste pour vous dire, vous levez ma main si c'est arrivé. Je ne suis pas rendu. Alors, comment recevoir? Comment le voir être manifesté dans ma vie? Par notre collaboration avec lui. Par notre collaboration avec lui. Vous vous souvenez du passage tout à l'heure de l'apôtre Paul ou de l'avertissement. Puisque nous sommes les collaborateurs de Dieu, nous vous prions de ne pas recevoir la merveilleuse grâce de Dieu pour acquise, car cela n'aura aucun effet sur votre vie. Et très souvent, ou quelquefois, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui avance et qui s'épanouit dans le Seigneur et qu'on voit plein de choses arriver dans sa vie et d'autres personnes ne rien voir, quelquefois c'est simplement qu'on n'a pas répondu à cette grâce. On n'a pas jugé cette grâce d'une assez grande valeur pour dire, Seigneur, j'ajoute foi à ça. Je le crois et je vais marcher dans ce sens-là. Comment collaborer? Ce matin, mon message ne sera pas nécessairement long, mais comment collaborer? On va regarder deux passages, ou deux exemples, un positif puis un négatif. On va regarder un exemple positif et on va regarder aussi un exemple négatif parce que Dieu nous appelle à collaborer avec lui. On va regarder donc un exemple de collaboration qui est un exemple positif et un autre exemple où cette grâce-là n'a pas été vue ou n'a pas été saisie de la part des gens. Vous êtes prêts? Allons-y. Ce passage, le premier passage, dans 1 Rois chapitre 8, c'est lorsque Salomon a terminé la construction du temple. Et il organisait avec les prêtres le déménagement de l'Arche de l'Alliance. Et pendant que ça se fait, il y a beaucoup de sacrifices et c'est extravagant. Et ils installent l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Dès que l'Arche est installée, ils ont tout un programme au menu. Dès qu'ils ont installé l'Arche et que les sacrificateurs se retirent, kaboum, la gloire de l'Éternel vient sur le temple d'une manière tellement puissante qu'ils ne peuvent pas continuer tout ce qu'ils avaient prévu. Et suite à cela, la gloire de l'Éternel, elle est là, elle est présente, et du lieu saint, ils le voient. Ils sont conscients, wow, on ne peut pas rentrer là, on ne peut plus continuer. Ils se sont juste retirés. Et Salomon a commencé à prier et à faire cette déclaration qui est vraiment intéressante. Et il a prié pour bénir le peuple parce que c'était mission accomplie. C'est vraiment étonnant parce que le temple, c'est son père qui lui a dit de le bâtir. C'est son père qui a économisé, qui a tout mis de côté, qui a construit des entrepôts pour emmagasiner le bois, la pierre, l'or, l'argent et de commencer à faire fabriquer des choses. Son père a tout préparé, puis il a dit, « Voici Salomon, ça c'est l'œuvre de ta vie, tu dois construire un temple pour l'Éternel. » Et je ne sais pas s'il peut-être lui a donné les plans, en tout cas. David s'est vraiment attelé, Salomon s'est vraiment attelé à ça, et c'est ce qu'il a accompli. Et à la conclusion, lorsque le dernier morceau, l'Arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, est installé là au milieu de son temple, ce que Salomon voit, c'est la présence de Dieu venir. Je remets être là. C'est assez extraordinaire, probablement extraordinaire. Salomon prie, mais il fait une déclaration intéressante, et cette déclaration-là nous informe beaucoup sur son père David. Depuis le jour, donc c'est lui-même qui dit, voici ce que Dieu a déclaré. « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple, Salomon parle de la part de Dieu, de mon peuple Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple. Je n'ai pas choisi de ville, j'ai choisi David. » C'est ce que Dieu a déclaré, c'est ce que Salomon dit. Et il continue et dit, « David, mon père, avait l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel a dit à mon père David, « Tu as eu l'intention de construire une maison en l'honneur de mon nom, et tu as bien fait. » C'est vraiment intéressant ici, cette déclaration. David a institué la louange dans le temple, ou plutôt, à l'époque, ce n'était pas le temple, mais la tente. David avait construit une tente pour garder l'Arche de l'Alliance, et en attendant que le temple soit construit, David avait fait venir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem et avait construit une tente pour l'abriter. Et David avait mis sur pied des chorales de chantres, des musiciens. Il avait récupéré tous les meilleurs musiciens et c'était la voix de David, disons. Il a recruté les meilleurs musiciens, les meilleurs chanteurs. Et David les a mis au service de Dieu pour louer Dieu. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, chanter des chants, composer des hymnes, composer des chants. Et les psaumes, ce sont les recueils de chants que ces psalmistes, différents psalmistes, ont chantés, incluant David, qui a composé aussi beaucoup des psaumes. Et c'était chanté. Et ça, c'est un exemple que David avait fait. Et Dieu a dit, dans les derniers temps, je vais reconstruire la tente de David. Et lorsqu'il parle de tente, il parle de cet aspect-là, de ce qui se passait autour de l'Arche de l'Alliance, cette louange-là. Je vais reconstruire la tente de David dans les derniers temps. Signifiant littéralement, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, vous savez. Nous ne sommes pas le jour dernier ou au jour dernier, mais nous sommes dans les derniers temps, depuis que même Pierre l'a déclaré au jour de la Pentecôte, donc ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps. Dans l'ère de la grâce, dans l'ère de l'Église, et Dieu désire dans l'Église que cette même louange que les chantres ont élevée envers Dieu, d'une initiative de David, il désire que ça puisse être fait, que ça puisse continuer. Dieu a trouvé que l'initiative de David était une bonne initiative. Et ici, encore une fois, cette déclaration de Salomon, lorsqu'il fait venir donc l'Arche de l'Alliance dans le temple, je vais vous lire le verset 10, juste avant sa déclaration, que je n'avais pas mis à l'écran tantôt. Ça nous dit, « Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Dieu était présent. » Et lorsque Salomon déclare ces versets qu'on vient de voir, Salomon est en train de dire que, littéralement, David, ce qu'il dit, ou plutôt Dieu, ce que Dieu dit, c'est « David, c'était mon idée, mais le temple, c'était l'idée de David. » Et je trouve ça intéressant parce que Dieu répond, tu as bien fait. Et je trouve intéressant, on voit ici cette collaboration. Et partout, à partir du livre de la Genèse, à partir d'Adam, où Dieu dit, je vais te présenter tous les animaux parce que je veux que toi, tu les nommes. Tu leur donnes à chacun un nom. Dieu voulait voir, et c'est ce qu'il a fait. Depuis Adam, on va aller jusqu'à l'Apocalypse. Partout dans la révélation, ce qu'on voit, c'est le désir de Dieu que l'être humain puisse collaborer avec lui, en tout point. Constamment, c'est ce qu'on voit. Un autre passage qui est négatif, et je vous disais tout à l'heure, mon message ne sera pas nécessairement long ce matin. Un message qui est négatif, c'est lorsque Jésus était avec ses disciples. J'en ai pris un, mais il y en avait plusieurs. Mais un en particulier, une anecdote où, dans Marc chapitre 6, ça nous dit, le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Jésus, dans les versets précédents, a fait la multiplication des pains. Ils sont là à enseigner la foule pendant des heures et des heures et des heures et des jours. Et les disciples disent, écoute, il faut renvoyer les gens. Écoute, ils vont mourir de faim et on n'a rien à leur donner. Et lorsqu'on met les différents passages, bon, on voit une des multiplications qui est deux pains puis cinq pains et deux poissons. On a les disciples qui comptent leur argent puis ils disent, écoute, on ne pourrait pas nourrir grand monde avec, je ne me souviens plus combien, 200 pièces qu'ils avaient. Et puis, lorsque quelqu'un dit, il y a un petit garçon qui a un lunch de deux poissons, cinq pains, c'est super, amenez-le. Et dans ce miracle, tout ce que Jésus a fait, il a simplement prié, rendu grâce. Merci Seigneur pour cette bonne nourriture. Mettons secours, c'est ce qu'il a dit. OK, les disciples, allez, nourrissez la foule. Et il les a fait auparavant, fait mettre, OK, un groupe de 50. Vous n'êtes pas 50, mais imaginons que vous êtes 50. 50 ici, 50 là, 50 là. Donc, tu t'imagines, le disciple ou deux disciples, ils sont 12. 1, 2, 3, 4. On est juste 4, on est chanceux. On aurait 3 disciples dans chaque section. Mais dans leur cas, ce n'était pas le cas. Un disciple par section qui arrive avec un panier, un poisson déchiré en deux probablement, puis un morceau de pain déchiré. Donc, un morceau de pain séparé à main, un morceau de poisson, et on arrive pour nourrir 50 personnes. Vous regardez ça, vous dites, OK. Les disciples aussi regardent ça. Et tu dis, j'espère que les premières personnes n'ont pas trop faim. Et tu vois la première personne qui déchire un morceau, tu regardes, tu essaies de, on dirait qu'il en reste. Phew, peut-être qu'il y en aura jusqu'à moi. Et ça continue. Chacun prend un morceau de poisson. Peut-être chacun prend le morceau de poisson, le morceau de pain. Et on se tourne, il y en a encore, il y en a encore. Et peut-être que même ça augmente. Et la personne en arrière qui se dit, je vais-tu en avoir? On arrive à elle, puis le panier est plein. Ça dit qu'il y en a eu de trop, en tout cas. À quelque part, ça s'est multiplié. Et ce sont les disciples qui ont participé dans ce miracle-là. Donc, à la fin, tout le monde a bien mangé. OK, vous pouvez rentrer chez vous. Jésus dit aux disciples, OK, prenez la barque, allez de l'autre côté, je vous rejoins. C'est tout ce qu'il leur dit. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Donc, vers la fin de la nuit, probablement qu'il est resté à terre pour aller prier. Je suis convaincu qu'il est allé passer un tête-à-tête, avoir un tête-à-tête avec son père. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux. Il a décidé le chemin le plus court. On va marcher sur le lac. On va aller les rejoindre. Vers la fin de la nuit, ils sont partis probablement au début de la nuit, ils sont encore sur le lac, en train de ramer. Le vent leur est contraire. Donc, ils marchent sur le lac et ils veulent même les dépasser. Il s'est dit, mon Dieu, ils vont tellement pas vite, je vais marcher jusque de l'autre côté du lac, probablement. Il s'est dit, si je monte avec eux, je vais perdre mon temps, donc je vais me dépêcher pour arriver de l'autre côté, puis je vais les accueillir. Je ne sais pas. Mais quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Donc, imaginez les 12 disciples crier comme des dames qui viennent de voir une marée de souris se promener dans leur cuisine. Ils ont oublié qu'ils étaient des hommes pour un instant. Ils sont tellement paniqués qu'ils crient. Puis j'imagine tout le monde les a entendus autour du lac, même si c'était des kilomètres. Ils sont en train de crier. Ils sont affolés. Et là, Jésus dit, vous allez réveiller tout le monde. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Le dernier verset ou la dernière partie est vraiment importante. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. Autrement dit, on met des mots là pour dire ils ne savaient pas quoi penser. Ça n'a pas d'allure. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Jésus qui marche sur les eaux et tout. Pour eux, c'était incroyable. Ils avaient de la difficulté, donc ils étaient extrêmement étonnés. Mais la raison pour laquelle ils étaient étonnés, c'est ça qui est vraiment important. On doit tirer leçon, on doit apprendre des disciples ce matin, en 2020. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Dans la version de la Passion, je vais vous le lire, portez attention, ils étaient entièrement et complètement submergés d'étonnement. Tu ne peux pas en mettre plus. Ils n'étaient plus capables de parler, ils étaient tellement surpris. Parce qu'ils n'avaient pas appris la leçon du miracle des pains et leur cœur n'était pas disposé à apprendre la leçon. Un des sens du mot grec utilisé, c'est comme leur esprit était blafard. Leur esprit était sur le neutre. Leur esprit n'était pas engagé. Leur esprit était endormi. Un peu comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils réalisent que c'est Jésus, ils disent « Wow! » Quand on entendait ces paroles, wow, ça brûlait en nous. Puis on n'a même pas réalisé que c'était Jésus. Ah, comment ça se peut-il? Comment se peut-il ça? Et ici, les disciples, la raison pour laquelle ils étaient à ce point, ils ont eu à ce point peur. Premièrement, ils ont eu peur, ils étaient étonnés et ils n'ont pas compris ce qui venait d'arriver. Ici, l'auteur met ça directement en lien avec le fait que leur cœur n'était pas apte, ouvert, éveillé pour saisir l'enseignement qu'ils avaient besoin de comprendre dans la multiplication des pains. OK, leur esprit était blafard. Et l'implication qu'on a dans cette phrase-là, c'est qu'ils n'étaient pas disposés à accepter de nouvelles informations. Chaque miracle porte un message. Chaque miracle porte un enseignement. Chaque révélation a pour but de nous emmener plus loin dans notre relation avec Dieu. Tout à l'heure, l'apôtre Paul, on avait pris ce passage-là. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Et on va continuer la semaine prochaine avec d'autres thèmes que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais je crois réellement que Dieu nous interpelle en l'année 2020 à saisir par la foi chaque parole. Autrement dit, je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus facile, la plus simple. Chaque parole qui sort de la Bible lorsque tu lis, qui sort de la page, chaque pensée que le Saint-Esprit place dans ton cœur, chaque miracle que tu vois, chaque encouragement que tu reçois, que ce soit d'un frère, d'une sœur, ou même à travers une prédication, chaque compréhension que tu as, chaque révélation que tu as une responsabilité envers ce que tu viens de recevoir. Et Dieu t'invite en 2020 à placer ta foi, ou plutôt exercer ta foi envers chacune des révélations que tu veux recevoir, que tu vas recevoir. Peut-être tu es en prière et tout à coup le Saint-Esprit place une pensée dans ton cœur. Tu peux simplement dire, Seigneur, je décide de croire que cette pensée-là vient de toi. Oui, ce qui est important, je ne veux pas des gens qui croient des choses qui ne sont pas fondées. Ce doit être fondé dans la parole de Dieu, constamment. On doit revenir au principe de la parole. Est-ce que ce que je reçois est vraiment fondé dans la parole? Mais ce que moi, j'ai reçu dans un songe récemment, c'est ce qui m'a vraiment fait l'impression sur mon cœur. Je sentais le Saint-Esprit me dire, « Écoute, mon plan de rédemption est bien plus grand que tu penses. » Et ce que j'ai décidé, moi, Dieu, le Dieu d'éternité, j'ai décidé de fonctionner de cette manière-là, de vous laisser toute la place. Et à chaque fois qu'un de mes enfants reçoit, comprend une chose de la parole, dans un message, à travers un encouragement, même à travers la parole d'un chant, et qui répond, « Oui, Seigneur, j'ajoute foi à cette parole. Seigneur, je décide d'ajuster ma vie à cette parole. Je décide de la croire. » J'ai senti le Saint-Esprit me dire, « C'est ça mon plan de rédemption. C'est ça le plan que j'ai eu pour qu'on puisse travailler ensemble en collaboration avec Dieu. » Pour y arriver, on va devoir aller beaucoup plus loin, dans le sens que on va devoir prendre conscience que son salut est infiniment plus glorieux qu'on a pensé jusqu'à maintenant. On va voir ça la semaine prochaine. On va voir que sa puissance est infiniment plus grande. On va voir que son amour est infiniment plus généreux. Et on pourrait continuer. On va voir que notre identité, c'est beaucoup plus qu'on pensait. Que l'héritage qui est à notre disponibilité, que notre position en Christ, notre identité, que cette relation avec Dieu que nous avons, elle est infiniment plus glorieuse, plus grande qu'on n'a jamais pensé. L'année 2020 est devant nous. Dieu a absolument tout, tout accompli. Et il nous invite simplement à collaborer avec lui, à dire, Seigneur, je veux exercer ma foi, jour après jour, semaine après semaine. Donc, il faut qu'on cesse, ou plutôt lorsqu'on tombe dans cette dynamique de pensée, de dire, oh, au secours, Seigneur, et qu'on retourne dans une pensée où on croit que Dieu doit tout faire pour nous, parce que nous, on est des pauvres pécheurs sauvés par grâce. On a besoin de se ressaisir, de dire, wow, non, ça, ce n'est pas le plan de rédemption de Dieu. Puisque nous sommes collaborateurs avec Dieu, puisque nous sommes partenaires avec Dieu, puisque nous sommes co-ouvriers avec Dieu, comme l'apôtre Paul parlait, ne permettons pas que cette grâce extravagante, infinie, n'ait aucun effet sur nos vies. J'aimerais qu'on se lève ensemble, maintenant. On se lève ensemble et je veux qu'on prenne un petit moment de prière, 2 minutes, qu'on puisse réfléchir. Et la semaine prochaine, je veux qu'on puisse regarder plusieurs des aspects, un après l'autre, à quel point c'est beaucoup plus grand qu'on pensait. Comment on va pouvoir embrasser cela? J'ai essayé de te partager, dans ma mesure où j'ai pu le faire, dans la compréhension que j'ai, que Dieu t'invite à collaborer avec lui. Tu ne dois pas regarder la différence entre un Dieu infini et un être physique, charnel, limité, fini, comme on dit dans un sens. Ce n'est pas que je suis fini, mais je ne suis pas éternel, je ne suis pas omniprésent, omnipotent et ainsi de suite, omniscient, alors que Dieu l'est. Mais il faut qu'on cesse de regarder notre relation avec Dieu en pensant qu'il y a un écart. Le Seigneur Dieu nous invite, et peut-être c'est lui qui nous appelle, là, il nous invite à placer notre confiance en Dieu. J'aimerais qu'on puisse répéter ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, je veux réellement placer ma confiance en toi. Je veux m'abandonner entre tes mains. Confiance absolue. Seigneur Dieu, merci de me transformer en ton image de gloire en gloire dans ce processus. Seigneur, viens dans ma vie. Saint-Esprit, rappelle-moi avec chaque miracle que je verrai cette année. Chaque guérison, chaque restauration, chaque révélation, chaque parole qui viendra claire à mon esprit, chaque encouragement, chaque enseignement que je vais recevoir. À chaque fois, Saint-Esprit, rappelle-moi d'exercer ma foi et d'embrasser cette nouvelle révélation et de marcher en conséquence. Seigneur, ce matin, nous plaçons notre foi en toi. Le Dieu infini, le Dieu de gloire, le Dieu de guérison, le Dieu du salut, le Dieu de prospérité, c'est-à-dire tu désires ma croissance, ma transformation à ton image. Alors merci ce matin, Saint-Esprit, d'apporter la lumière dans mon cœur et de me rappeler que tu attaches une grande valeur à ma participation dans la relation que tu as restaurée avec moi à travers Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit de nous rappeler jour après jour. Trop souvent Seigneur, nous plaçons toute la responsabilité sur toi Et ensuite, nous t'accusons de ne pas avoir été au rendez-vous, d'avoir été en retard, de ne pas avoir écouté notre prière, de ne pas prendre soin de nous, de ne pas nous aimer assez. Seigneur, je te demande pardon pour tout ça. Mais Saint-Esprit, au contraire, fais-nous entrer en 2020 dans une nouvelle dimension de notre relation avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite vraiment à tous, à toutes, une année 2020 de bonheur, de prospérité, une année extraordinaire où on peut entrer dans cette nouvelle dimension avec Dieu. Prenons un moment pour nous saluer les uns les autres. Vous avez le temps, il n'y a sûrement pas un rôti qui brûle dans votre fourneau présentement. Alors, prenons un temps de partage et de communion fraternelle.